L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 26 juin 1977, il est 20h15. Elvis Presley, la plus grande star que la musique rock ait jamais connue, s'apprête à monter sur scène pour la dernière fois. Dans quelques semaines, le King sera mort et cette disparition, inattendue de ses fans, à laquelle beaucoup refuseront de croire, va définitivement forger sa légende. Ce concert du 26 juin 1977, à jamais gravé comme le dernier de Presley, se tient dans la chaleur de l'Indiana. Cet État des États-Unis, situé entre le Michigan et l'Ohio, accueille la star au sein de sa capitale, Indianapolis. Ce concert est le coup de sifflet final d'une tournée pour le moins pénible. En surpoids, sujet à une surconsommation de médicaments, ses prestations sont devenues catastrophiques pour la plupart. Le 19 juin, à Omaha, le public ne le comprend plus quand il chante. Et quand il parvient à se faire entendre, il oublie les textes ou enchaîne les fous rires devant la salle, incrédule. Le show qui commence ce soir est le moyen pour lui de se racheter. Dans sa loge, Elvis tient à peine debout et reprend des anxiolytiques avant d'entrer sur scène. Péniblement, il se recoiffe, mais sa banane impeccable ne fait guère illusion. Il est l'ombre de celui qu'il était lorsqu'il se produisait en costume rose. Ce costume, acheté chez le tailleur de B.B. King dans les États du Sud. Alors qu'on le poudre pour dissimuler au mieux ses joues boursouflées et les cernes profonds qui vont avec, il repense à cette époque bénie. Celle où sa mère gérait Graceland, sa magnifique propriété, et où il était heureux avec sa femme qui est partie, Priscilla. Le King est seul désormais, et il doit assurer son train de vie faramineux en montant sur scène encore une fois. Un de ses musiciens le soutient pour qu'il se lève et, comme toujours, le démon de la scène s'empare de lui. Les ailes qui le portent sont cependant de plus en plus faiblardes, et le public le remarque bien. Personne n'est dupe. La star est sur le déclin, irrémédiablement. S'il a touché le ciel du doigt il y a des années, aujourd'hui sa chute est vertigineuse et semble sans fin. Péniblement, Elvis prend son micro et commence à chanter. You ain't nothing but a hound dog. Presley est préoccupé en plus d'être malade. Il sent au plus profond de lui que ses forces l'abandonnent et qu'il lui sera bientôt impossible de pouvoir reprendre le dessus. La publication à venir d'un livre polémique l'inquiète au plus haut point. Il reprend les témoignages de ses deux anciens gardes du corps qui s'épanchent sur ses mauvaises habitudes et de fait, sa réputation risque d'en être entachée sérieusement. L'anxiété qui se dégage de tout cela est pour lui insurmontable. Le groupe attaque une de ses chansons phares, Hound Dog, et Elvis se déhanche tant bien que mal, mais la flamme n'y est plus vraiment. La fin du titre arrivant, et pour la première fois de la tournée, il reprend un vieil usage, celui de présenter à la salle tous ceux qui comptent pour lui. Cette fois cependant, il s'y arrête plus qu'à l'accoutumée pour témoigner à ses proches son amour et sa reconnaissance. Tout le monde remarque que cette intervention est inhabituelle. Mais alors, Elvis sait-il qu'il va mourir? Est-ce l'effet de la sortie de ce livre polémique? Nul ne le sait. Mais au moment où il presse les premières touches du piano pour son dernier morceau, joué en public, Can't Help Falling in Love, une ballade devenue classique, ceux du premier rang peuvent distinguer des larmes roulant sur ses joues. Nous sommes le 26 juin 1977. Il est 22h30. Et pour la dernière fois, des spectateurs entendent la célèbre maxime qui accompagne chaque départ de la rockstar. Elvis a quitté le bâtiment. Dans la voiture qui le conduit à l'aéroport, le King manque de peu de faire un malaise. Mais comment celui qui a fait la pluie et le beau temps sur la musique de l'Amérique pendant près de 10 ans a-t-il pu en arriver là? Qui ou quoi est responsable de la chute du plus grand vendeur de disques en solo de tous les temps. Pour mieux analyser les raisons du crash, nous avons besoin de reprendre l'histoire au moment même du décollage de la star. Alors, venez avec moi. Nous prenons la direction du Tennessee. Là où, à Memphis, un jeune musicien blanc s'est mis à jouer de la musique de noir au cœur des années 1950, choquant l'Amérique puritaine et ségrégationniste. Nous sommes le 17 juillet 1955. Il est 21h. Le club Bon Air est une institution à Memphis, Tennessee. Cet antre de la musique rhythm and blues, cher à des artistes comme B.B. King ou Arthur Crudup, dont Elvis enregistre un morceau pour son premier 45 tours, fait sale comble ce soir. Un jeune blanc qui chante du blues aux allures de country. Alors là, personne n'a encore jamais vu ça. À l'époque, le blues est une affaire de noirs qui sont victimes de la ségrégation, d'autant plus dans les villes des États du Sud, dont Memphis est l'une des vitrines. D'emblée, les Américains, dont la plupart sont fidèles à ces principes racistes, sont désarçonnés et choqués par la musique que produit ce garçon. D'autant plus qu'on l'entend en boucle à la radio depuis quelques semaines. Une contrebasse, une guitare et un grain de voix particulièrement aguicheur, c'est sa recette. À lui et ses deux musiciens. Pourtant, lorsqu'on examine de plus près ce jeune chauffeur-livreur, il est plutôt loin des canons de beauté de l'époque, avec sa vaseline dans les cheveux et ses costumes excentriques qui viennent tous des quartiers noirs de la ville. Presley a découvert la musique très jeune, dans les églises évangéliques de pasteurs afro-américains pratiquant le gospel. Se nourrissant de ses influences, il se produit dans des petits concerts dès l'âge de 10 ans. Mais la révélation à proprement parler arrive à sa sortie du lycée et il y a quelques mois, la maison de disques Sun Records lui a permis d'enregistrer son premier opus. En cette chaude soirée d'été, il donne son premier concert officiel. Chewing-gum en bouche, la mèche tirée vers l'arrière, Elvis Presley tremble de trac dans son costume rose. Comme à leur habitude, ses parents sont là, frissonnant autant que lui à l'idée de le voir monter sur scène. Gladys et Vernon ont perdu leur premier fils, mort-né et jumeau d'Elvis. Depuis, ils couvent leur fils unique comme un jeune poussin tombé du nid. Ses musiciens le motivent, sa mère le cajole et aussitôt, le jeune Presley se retrouve balancé sur scène, face à la petite cinquantaine de spectateurs du soir. Moquerie et raillerie fusent face à son style atypique. Mais lui ne se démonte pas. En une seconde, le jeune homme maigrichon se transforme en rockstar, occupant tout l'espace scénique de sa présence. Le trac lui fait trembler les jambes. Son pantalon large accentue le mouvement et de fait, Elvis trouve son jeu de scène, ce célèbre déhanchement caractéristique. Les filles du premier rang sont fascinées. Elles hurlent au génie. Et dans cette salle suffocante de Memphis, le mythe est né. Au fond de la salle, appuyé sur une canne mal adaptée à sa taille, un homme observe attentivement la scène. Le colonel Parker. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est persuadé d'avoir trouvé sa prochaine star. Bientôt, il deviendra le manager exclusif de ce jeune homme capable de rendre les spectateurs hystériques d'un seul mouvement de hanche. En l'espace de quelques mois seulement, Elvis devient une véritable star dans le sud des États-Unis. Il achète une nouvelle guitare, Martin, hors de prix, dépense sans compter pour ses tenues de scène et offre à sa mère une Cadillac rose. Cerise sur le gâteau, une propriété à Memphis est achetée par le chanteur. Son nom, Graceland. Le décollage du succès de la jeune rockstar est bien parti, mais l'engouement du public situé dans la partie nord du pays n'est pas encore assuré. Le colonel Parker est là pour ça. celui qui est à l'origine de la création de la Elvis Presley Enterprise, gérée par le père du musicien, empoche à chaque fois près de 50% de ses revenus. Plus le King travaille, plus lui, il encaisse. Elvis change même de label sous son impulsion, RCA, rachetant le contrat à Sun Records pour 40 000 $. Une fortune à l'époque, du jamais vu. Afin de propulser la carrière de son poulain sur un plan national, le colonel Parker négocie le passage d'Elvis dans de grandes émissions télé. En 1956, il joue en direct sur CBS et adapte sa setlist de concerts. Il découvre un morceau joué au début des années 50 par une femme jouant du blues dans les bars de Memphis, Big Mama Thornton. Ce titre, Hound Dog, devient son best-seller et clôture tous ses concerts. Il lui date aussi son premier tollé médiatique. Le 5 juin, alors qu'il la joue sur le plateau du célèbre Milton Berle Show, son déhanché suggestif lui offre ses premières couvertures de presse incendiaire. Et on le surnomme même Elvis, le Pelvis, ce qui, vous l'imaginez bien, ne lui fait guère plaisir. De plus en plus, ses concerts sont ingérables, tant son effet sur les fans est hallucinant. De retour dans sa ville natale, à Tupelo, le 26 septembre 1956, c'est la garde nationale qui doit être appelée en renfort pour assurer la sécurité des lieux. Le côté virevoltant et trop rebelle du jeune homme commence à faire jaser dans les sphères officielles. Le colonel Parker se retrouve bientôt en porte-à-faux entre les intérêts de son protégé et les souhaits des autorités. En parallèle de tout cela, le colonel parvient néanmoins à exaucer l'un des rêves d'Elvis, devenir une star de cinéma. Presley signe pour 7 ans avec la Paramount en 1956. Ses films sont généralement des films de série B, mais rien que sa présence à l'écran réussit à transcender les spectateurs qui viennent en masse. Échec pour la critique donc, mais véritable succès d'audience. En 1957 et au début de l'année 1958, les phénomènes de violence lors de ses concerts explosent. À Philadelphie, il est bombardé d'eux. À Vancouver, des étudiants viennent détruire complètement la scène à la fin du show. Non, cette fois c'est trop. L'armée, avec la complicité du colonel Parker, fait avancer sa date de début de service militaire. La rockstar, Elvis Presley, va partir pour l'armée. Initialement prévue au tout début de l'année 1958, son incorporation est quand même décalée de 3 mois afin qu'il puisse tourner son 4e film. C'est chose faite à la fin mars et Elvis quitte ses parents et Graceland. Parker a tout orchestré, y compris le fait que les caméras puissent aussi entrer dans les bâtiments militaires où se trouve le chanteur dans l'Arkansas. On le filme en train de se faire raser sa fameuse banane, en train d'essayer son nouvel uniforme, et lui, à tout bout de champ, répète qu'il ne veut pas de traitement de faveur. Durant 3 mois, Elvis apprend le maniement des armes et effectue toutes les autres tâches qui incombent aux appelés. Ce contexte ne lui déplaît pas. Et pour le colonel Parker, c'est là une fameuse aubaine pour redorer son image auprès de l'opinion publique. Presley passe pour un bon garçon auprès de la ménagère américaine en faisant son service comme les autres. Les plus réacs du pays apprécient son sacrifice pour la patrie et pour sa base de fans, il en devient presque un demi-dieu. Oui, le colonel est satisfait. Pour lui, c'est du tout bon. Mais bon, vous le savez bien, un ciel trop bleu, ça ne dure jamais très longtemps. Et rapidement, un nuage vient boucher l'horizon de celui d'Elvis. Au début du mois d'août 58, sa mère, Gladys, tombe très gravement malade. Pour le jeune homme, c'est une catastrophe, tant sa mère est pour lui son phare dans la nuit. Durant une dispute avec son mari au sujet de la gestion des affaires de la famille, elle s'est effondrée. Ses pilules amaigrissantes, son alimentation des plus déséquilibrées et une consommation d'alcool excessive pour faire face à l'inquiétude provoquée par le départ de son fils chéri sous les drapeaux, tout cela forme un cocktail explosif pour son foie qui ne tient plus. sous l'impulsion d'Elvis, son père ramène Gladys à Memphis alors qu'il se trouvait au Texas. Cela ne l'empêche pas de devoir être hospitalisé le 9 août. Le 11, après un appel du médecin de la famille, particulièrement alarmiste, il demande un congé d'urgence à ses supérieurs. C'est Elvis Presley. Bien sûr, il est accepté. Et le jeune militaire arrive le 12 août à Memphis. Il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il verra sa mère vivante.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'Elvis Presley, la star montante du rock'n'roll, tout juste enrôlée pour son service militaire, qui doit faire face à 23 ans, à la perte de la femme la plus importante de sa jeune existence, sa mère. Nous sommes le 15 août 1958. Il est 15h. L'office en hommage à Gladys Presley se termine tout doucement à Memphis. Bien entendu, le colonel Parker a appelé les journalistes. Elvis et son père au premier rang de l'église suent à grosses gouttes. La chaleur aujourd'hui est particulièrement insupportable. Sa mère, c'était sa conseillère, c'était sa meilleure amie, et sans elle, il avoue être particulièrement perdu. Heureusement, le colonel Parker est là et il se réjouit de bientôt prendre la place laissée vacante par la mère du jeune homme, pour le meilleur et pour le pire. En attendant, Elvis s'effondre plusieurs fois avant, pendant et même après l'office. La mèche en vrac, les yeux embués de larmes, il se réfugie dans le dressing de celle qui a bercé sa vie jusqu'à maintenant avant de descendre à la rencontre de la presse. Le lendemain, cette dernière titrera qu'il est finalement un bon fils. Ces journalistes ne le lâchent pas d'une semelle, et même si c'est particulièrement agaçant, eh bien il commence à s'y faire. Alors qu'il devait rentrer dans les rangs pour le 18 août, on lui rajoute 5 jours de permission. Le départ pour sa base militaire définitive en Europe est proche. Le jeune Elvis doit rassembler son courage et sa détermination pour accepter son devoir. En octobre, c'est le grand voyage qui commence, direction l'Allemagne de l'Ouest. Si Elvis s'inquiète pour les conséquences de sa longue absence sur sa popularité auprès de son public, eh bien il ne devrait pas. Ses producteurs sortent régulièrement des disques avec des enregistrements inédits durant les 2 ans où il disparaît des écrans radars. Presley place durant cette période rien de moins que 10 titres dans le top 40. Un franc succès, donc. En Allemagne, le jeune homme est apprécié de ses pairs. Il ne se vante pas de sa célébrité, est parfaitement intégré, achète des postes de télévision et des vêtements de rechange pour le reste de son régiment. Un jour d'automne, le pays européen lui permet aussi de rencontrer celle qui sera le grand amour de sa vie, Priscilla. Elle a alors 14 ans, lui presque 24. Son retour en grande pompe au pays en 1960 est triomphal. Son train est contraint de s'arrêter à plusieurs reprises car pourchassé par une armée d'admirateurs. Sa carrière à Hollywood décolle et le colonel Parker, tout heureux d'avoir trouvé un nouveau filon à exploiter, presse le chanteur et lui fait enchaîner les productions. D'abord intéressé par des films sérieux, Parker le contraint à n'accepter que des rôles à petit budget, aux scénarios prévisibles que les spectateurs peuvent deviner aux premières minutes. Musicalement, la décennie 1960 est une catastrophe commerciale, tant chaque album qui sort tarit un peu plus le succès du King. Les singles publiés entrent plus rarement dans le top 40. Elvis est même contraint par le colonel d'accepter le tournage de pubs d'électroménager et d'autres sujets qui le rabaissent un peu plus. La marche entre la gloire et le ridicule n'est pas si éloignée et Presley a franchi le Rubicon, bien poussé à cela par son pixou d'impresario, le redoutable colonel Parker. Ponctionnant la société Elvis Presley Enterprise jusqu'à la moelle, ce dernier repousse toujours plus loin les limites de l'acceptable. Et Elvis les accepte, tant son train de vie coûte cher. Un jet privé, et pas des plus petits, des bus aménagés, une bande d'amis qui lui veut du bien, mais qui vit surtout à son crochet, tout est réuni pour le mener au surmenage. En 1967-1968, la chute devient vertigineuse et l'ancienne rockstar n'est plus qu'une source de moquerie et un sujet de sketch d'humoriste. Il vit bien entendu très mal cette période et commence à douter des compétences de Parker, qui lui promet toujours mieux, toujours plus gros, mais qui arrive avec des chansons de Noël financées par Singer ou une pub TV pour une marque de capsules de lave-vaisselle. La chute ne semble pas s'arrêter. Et Elvis, qui prend des amphétamines depuis son passage en Allemagne, accélère toujours plus sa consommation, au point de prendre du poids et de devenir particulièrement agressif dans ses périodes de manque. Et là, j'imagine que vous pensez comme moi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son avenir s'est considérablement assombri. Eh oui. Et pourtant, tout comme les nuages finissent par venir s'incruster dans un ciel bleu, les éclaircies viennent parfois percer la couche de cumulus. Près de 10 ans après leur première rencontre, Priscilla et Elvis se marient en mai 1967. 9 mois pile après leur nuit nuptiale, la jeune femme accouche d'une petite fille. Cette naissance est pour Presley un électrochoc et va le pousser à donner le meilleur de lui-même pour revenir au devant de la scène. Nous sommes le 1er février 1968 et la plus grande rockstar de tous les temps vient de devenir papa. Si chaque film dans lequel se produit Presley coûte $1 million de royalties aux maisons de production, le colonel Parker voit quand même les sources de revenus se tarir pour de bon en 1968 devant le déclin galopant de la star. Face à cette difficulté qui lui semblait encore improbable à envisager il y a quelques années, le colonel Boiteux ne se dérobe pas. Il change simplement de stratégie. Il conclut avec la NBC un juteux contrat de plus $1 million comprenant un film et une émission à la télé spéciale Noël. Cela fait alors plus de 8 ans que le chanteur n'est plus apparu sur les écrans de télévision. Lorsqu'Elvis apprend l'énième entourloupe de son impresario qui lui impose une émission incluant une chanson à la gloire du Père Noël, il est furieux. Et discrètement, il va lui aussi modifier sa stratégie de réponse. Entre les deux hommes, la guerre froide en vigueur entre l'URSS et les États-Unis d'Amérique à l'époque couve elle aussi. Bientôt, chacun va construire ses propres tranchées et Presley déclarera bientôt la guerre ouverte à son producteur. Mais en attendant, un show sur Noël se prépare. Nous sommes le 3 décembre 1968. Il est 20h. Bourré de trac, peu à l'aise dans sa nouvelle tenue de scène, Elvis reprend des cachets avant de se lancer. Plusieurs prises ont déjà été enregistrées en studio avant la prise en direct qui va maintenant se dérouler. Le plus gros problème du King ce soir, c'est ce public. Une éternité qu'il n'a pas joué en live. Et ça l'angoisse. Tout de cuir vêtu, comme à ses débuts, il ressemble véritablement à celui qu'il était avant sa chute. L'illusion est parfaite. Et dire que le colonel voulait lui faire porter un pull de Noël. Le rocker entre sur scène ce soir avec ses anciens musiciens et ses amis de toujours, comme pour aller chercher un soutien jusque dans le choix de ses acolytes. Le public est là, en masse, calme et assidu. À l'apparition du slogan « Applaudissez » sur un écran non loin de là, l'écho de leurs mains se répercute en chœur dans le studio. Quand l'écran s'éteint, ils arrêtent. Le spontané, les cris, les jets de sous-vêtements, les vêtements arrachés, les moments où ils devaient se réfugier à moitié nus dans les loges et les voitures, tout ça, c'est terminé. La Beatlemania est passée par là. Des artistes comme les Rolling Stones ou Jimi Hendrix aussi. Lui, les hippies, ils détestent ça. Ces gens-là n'ont rien inventé et prennent aussi à leur compte les influences noires du Sud. Lui, au moins, il a l'honnêteté de le revendiquer. Attention, c'est le moment. Un cadreur le pousse dans le dos et Elvis se retrouve sur cette scène exiguë et aseptisée. Mais ses amis sont là. Et le show doit être assuré. Sans trop en faire, raide dans son jeu de jambes, Elvis est tout de même bon toute la durée du live. Et au moment où le groupe attaque Hound Dog, les applaudissements sont vivants et sincères. Pas de quoi rappeler les concerts endiablés de Memphis ou Houston, disons-le clairement, mais il est de retour. Et le succès aussi. NBC fait 42% de parts de marché ce soir-là. C'est énorme! La naissance de sa fille au début d'année et la réussite de cette émission spéciale le poussent à reprendre le chemin des studios et à se reconsacrer de nouveau à la vraie musique, celle qu'il aime vraiment. Exit, les albums de chants catholiques et les bandes originales. Il entre de nouveau en studio d'enregistrement. Ceux qui sentent la clope froide et le renlant d'alcool, mais où s'enregistrent les succès. Son album est une réussite, restant plus de 20 semaines dans les charts. C'est la première fois depuis 8 ans que Presley sort un album de sa véritable composition. Pourtant, Elvis ne semble pas heureux. Multiplie les conquêtes dans le dos de Priscilla. Augmente les doses de médicaments, leur variété aussi. Bon, autant vous dire que son foie est constamment défoncé, ce qui n'arrange pas son état de santé. Mais le succès semble de retour alors. Cet album lui donne l'envie de reprendre les tournées. Le monde entier se presse à ses pieds, lui promettant une montagne d'or pour une première tournée en Europe ou au Japon, là où sa popularité est au zénith. Mais, encore une fois dans son dos et sans son avis, le colonel Parker conclut un accord pour 57 dates au Grand Hôtel International de Vegas qui vient de faire peau neuve. Elvis a carte blanche pour monter son groupe et semble vivre une véritable cure de jouvence. Une aubaine, allez-vous me dire. Oui. Oui, mais là encore, le colonel a manigancé de nouveau derrière le dos du King et ses rouflaquettes. Elvis se retrouve, lui, encore une fois, dans une prison dorée. Pour le moment, il ne remarque pas les magouilles dont il fait les frais depuis des années et il s'éclate sur l'immense scène de l'international. Il joue devant les plus grands de ce monde. La magie opère et son déhanché, qui reprend vigueur, rappelle à ses spectateurs la nostalgie d'un temps révolu. Lui ne le voit pas comme ça. Il s'imagine être toujours dans le coup, toujours à la mode, toujours comme le roi d'une Amérique qui respire le rock'n'roll. Ouais, mais voilà. Luther King et les Kennedy ont été assassinés. Déjà, les Rolling Stones chantent leur sympathie pour le diable sur un rythme différent du sien. Déjà, les Bee Gees émergent avec un son qui va bientôt devenir le disco. Et lui n'est finalement plus que le mirage d'un temps qui passe et qui s'efface. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but step me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Le 31 juillet 1969, sa première est un triomphe devant près de 2200 personnes, ce qui permet à Parker de faire engager Elvis pour 5 ans, durant lesquels le King sera contraint de réaliser deux séries de concerts par an, une en hiver, une autre pendant l'été. Banco pour Presley qui touche 1 million de dollars par année avec ce contrat. Mais vous êtes comme moi, bien naïf si vous pensez que le colonel joue au bon samaritain. Au contraire. Le choix de l'hôtel dans lequel son poulain se produit ne tient en rien du hasard. C'est aussi un casino. Et Parker y a contracté d'énormes dettes de jeu. Ce contrat qu'il fait signer à Elvis lui permet, à l'insu du chanteur bien entendu, d'éponger les deniers qu'il doit. Et pour Elvis, c'est une pression insupportable qui commence. For the money, two for the show, three to get ready, now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but step over my blue suede shoe.
Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes.
Yeah!
Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes.
Well, you can do anything, but stay home for my blue suede shoes.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'Elvis Presley. De starlet régional, il est devenu une superstar mondiale grâce à son style inimitable et ses musiques endiablées. Fidèle à ses principes musicaux, il se ringardise pendant toute une période avant de connaître un improbable et retentissant comeback en se produisant dans un des hôtels les plus en vue du Nevada. Deux ans de représentation à Vegas, et Elvis Presley en a déjà assez du profil de son public sur place. Comme un retour aux sources, il s'organise deux semaines de tournée en 68, une dans son sud natal, l'autre sur la côte ouest. La perspective de reprendre la route pour la première fois depuis 1958 dans le Tennessee le rend heureux, et il repense à la possibilité de faire une tournée en Europe. Chaque fois, le colonel Parker refuse l'éventualité, mettant en avant la sécurité du chanteur face aux menaces qu'il peut recevoir. C'est à cette période que la relation entre les deux hommes se dégrade. Elvis se rend compte de l'influence néfaste et des magouilles du colonel, et il décide de le renvoyer. Mais l'escroc le tient comme il faut, et mettre fin à leur collaboration coûterait plus de 8 millions de dollars au chanteur et à son entreprise. De quoi mettre la clé sous la porte et perdre Graceland, là où sa mère est enterrée. Perdre le domaine est hors de question. Presley est hors de lui. Réclame des comptes à son père censé gérer la fortune familiale, mais en réalité totalement dépassé. Faute de mieux, le chanteur accepte de renouer avec son impresario. Il a perdu confiance envers les deux hommes qu'il estimait le plus au monde et il se perd, lui, un peu plus. Mal entouré, mal conseillé, il s'enfonce dans les médicaments et dans les aventures sans lendemain. Sa femme finit par le quitter et par divorcer, emmenant avec elle sa fille. La bonne étoile du King a pâli et le temps passant n'arrive plus à briller de nouveau de mille feux. J'ouvre ici une parenthèse pour vous parler de ce fameux colonel Parker, l'ange soi-disant gardien d'Elvis. Ce colonel est complètement faux, j'en profite pour le dire. Rien de son histoire n'est vrai en réalité. Il n'est ni colonel, et il s'appelle encore moins Tom Parker. Son vrai nom est Andreas Cornelius Van Kuyk. Et vous l'aurez deviné, notre homme est hollandais. Soupçonné du meurtre d'une jeune femme qu'il a matraqué à mort en 1929, il devient immigrant illégal aux USA et emprunte le nom de l'officier qu'il engage dans l'armée américaine, bien qu'il en soit rapidement réformé. Aboyeur dans le célèbre cirque Barnum au départ, il devient impresario de Hank Snow, une célébrité locale, chanteur dans le sud de country western, avant de rencontrer sa poule aux œufs d'or, le jeune Presley. Pour la petite histoire, l'homme va mourir dans l'anonymat le plus total, ou presque, en 1997, ayant perdu plus de 5 millions dans les casinos à Las Vegas. La rançon du voleur, riche, mais conspuée de tous. Aujourd'hui encore, il est considéré comme celui qui a poussé Elvis vers les enfers. Et un procès à la mort du King contre les héritiers de la famille lui fera perdre tout droit vis-à-vis de son ancien poulain. Il y empoche quand même 2 millions de dollars supplémentaires. On ne peut cependant nier qu'il a favorisé le succès de Presley par la prise de certaines décisions. Tout en l'arnaquant donc. Mais la légende Elvis est encore bien vivante en janvier 1973. Il va réaliser son dernier coup mémorable, peut-être le plus tonitruant d'entre tous. Il est le premier artiste à se produire via une retransmission satellite dans le monde entier. Figurez-vous que le 14 janvier, il est écouté par près d'1,5 milliard de personnes en même temps. Un record jamais égalé depuis. Le double album qui suit est vendu rien qu'aux États-Unis à plus de 5 millions d'exemplaires. Dans son costume blanc frappé de l'aigle américain en strass et paillettes, le King a grossi, mais il est toujours le même, virevoltant, jouant des hanches et du postérieur. Elvis a eu la tournée mondiale promise par Parker. sans décoller du sol des États-Unis. Il s'offre par la même occasion son chant du cygne, tant sa santé se dégrade déjà depuis plusieurs mois. Sa descente aux enfers n'est pas seulement due à la surconsommation de médicaments. C'est aussi lié au surmenage. Ses dates de concert s'enchaînent à un rythme effréné, non moins de 168 pour la seule année 1973. Accro aux barbituriques en tout genre, il est contraint à séjourner à l'hôpital à la suite de deux intoxications successives. Cette addiction dégrade également sa production musicale. 18 titres enregistrés en décembre 73, puis plus rien pendant un an. En 1975, deux sessions sont organisées par Parker, d'où ne sort strictement rien. Sa maison de disques s'inquiète, lui fait même installer à Graceland un studio mobile en 1976, mais rien n'y fait. Pour pallier au plus pressé, on sort un album live par-ci, un autre par-là, mais les conditions de travail qu'impose le studio lui sont pénibles. Et l'envie ne semble plus là non plus. Néanmoins, Elvis se reprend, fournit un réel effort et produit l'équivalent de 6 albums lors de ses sessions organisées au plus près de son domicile. Certains de ses singles se classent en tête des charts consacrés à la country, mais c'est bien le maximum. L'aura du génie a disparu. Sa relation avec Linda Thompson se termine également en 1976. Cette jeune mannequin est entrée dans sa vie un peu plus d'un an avant. Mais ce n'est pas ça qui rend Elvis malheureux. Celle qu'il aime et qu'il chérit plus que tout, c'est son ex-femme, Priscilla. Une fois le divorce prononcé, cette dernière a vécu une idylle avec un autre homme et semble avoir tourné la page. Pour le chanteur, c'est la catastrophe sur le plan relationnel autant que musicalement. Sa mère est morte et il ne s'en est jamais vraiment remis. Sa femme est partie. Il fréquente de jeunes mannequins plus jeunes que lui et qu'il n'aime pas. Son père l'a ruiné à cause de sa mauvaise gestion et il s'est fait arnaquer par le seul homme en qui il n'a jamais eu confiance, ce foutu colonel Parker. L'année 1977 démarre donc sous les plus mauvais auspices. Sa surconsommation médicamenteuse le fait grossir, beaucoup, et il perd en énergie. Il parvient tout de même à prendre la décision de tourner, mais il est complètement hors du coup, perdant le fil de ses paroles et de ses idées, rigolant ouvertement de ses oublis. L'addiction le pousse aussi vers le spiritualisme. Même le mécontentement de ses fans ne semble même pas l'atteindre. Elvis est déjà tout doucement poussé vers la sortie. Mais personne. Ni le colonel Parker, qui continue de traire sa vache à lait, ni ses proches, qui vivent à son crochet, ne semblent s'alarmer de la mesure du problème. Le coup de grâce tombe le 1er août. Trois anciens gardes du corps de la star, renvoyés par son père, participent à la publication d'un livre sur ses addictions. Paniqué à l'idée de voir ce brûlot mettre en cause sa réputation, Presley va jusqu'à offrir aux éditeurs de l'argent afin qu'il ne soit pas publié. Peine perdue. Le livre sort et taille un costard au roi du rock. En parallèle, ses soucis de santé ne cessent de se diversifier. De l'hypertension aux problèmes de foie en passant par un glaucome, autant vous dire que le King est dans un état plus que préoccupant. Nous sommes le 16 août 1977, il est 10h30. Ginger, la nouvelle petite amie du King, se réveille doucement. Hier soir, Elvis et elle ont privatisé un cinéma de Memphis et ont pu voir en avant-première un de ses nouveaux films d'action à gros budget dont elle a déjà oublié le nom. Comme d'habitude, insomniaque à cause de ses médicaments, son compagnon n'a pas dormi avec elle. Au lieu de ça, il a joué au racquetball. Depuis plusieurs semaines, elle s'inquiète de son état de santé. Obèse, méconnaissable, son Elvis n'est pas celui des magazines. Surtout les cocktails de médicaments qu'il ne cesse de prendre, ils sont de plus en plus dangereux et le rendent irascible. Il repart aujourd'hui pour une nouvelle tournée, encore. Ginger, pour lui faire plaisir, décide de se lever et de lui préparer un bon petit déjeuner. Mais avant, elle veut se préparer et se dirige vers la salle de bain. Elle remarque que la porte est entrouverte et que la lumière est restée allumée. Elle appelle Elvis. Pas de réponse. soudain prise d'un sentiment d'angoisse prémonitoire, elle enfile un peignoir et se précipite pour ouvrir la porte. Là, sur ses toilettes, elle trouve le King inanimé. Elle prend son pouls qu'elle ne trouve pas, tente de le réveiller, de le couvrir. Elle appelle au secours des amis qui dorment en bas et qui se précipitent à leur tour. Ils constatent comme elle la même chose. Il ne respire plus. Tout de suite, on appelle les urgences et on tâche de l'habiller quelque peu. Les jeunes gens se mettent aussi d'accord sur une version officielle. Ils l'ont trouvé dans la salle de bain et surtout pas sur les toilettes. On ne peut pas raconter un truc pareil à la presse. Les secours font aussi vite que possible et conduisent Elvis au Baptist Memorial Hospital de Memphis. On tente de le réanimer pendant des heures, mais rien n'y fait. Il est 15h30, le 16 août 1977. Et à 42 ans seulement, le roi du rock'n'roll a quitté la scène de manière définitive. Deux jours plus tard, ses obsèques à Graceland seront à la mesure de sa légende. Une foule de plus de 80 000 personnes s'entasse sur les parterres de la maison du chanteur et contre les grilles, pleurant et maudissant le ciel de l'avoir rappelé si vite. Si Elvis Presley n'était dans les derniers mois de sa vie plus que l'ombre de celui qu'il avait été, il n'empêche que sa légende n'a pas attendu sa mort pour s'envoler et prendre la place qu'elle mérite. Il reste aujourd'hui l'artiste solo ayant vendu le plus de disques de tous les temps et se classe deuxième vendeur toutes catégories confondues. Derrière les irrattrapables Beatles, ces jeunes Anglais, un peu hippies, qu'il aimait tant critiquer, lui, le gamin des États du Sud. Au soir de sa vie, déjà plus personne n'osait ridiculiser l'homme qu'il était. Sa force de vivre, sa détermination, son incroyable comeback et sa valorisation d'une musique chantée uniquement par des Noirs en temps de ségrégation en ont fait une superstar. Mieux, un demi-dieu, un roi. Aujourd'hui encore, les touristes et les fans du chanteur se pressent dans sa maison devenue un sanctuaire à sa gloire et à celle de ses idées. Entouré des tombes de ses parents, sa sépulture est aujourd'hui encore l'une des plus visitées au monde. L'adage veut que lors de la mort d'un roi de France, l'on prononce cette maxime restée célèbre. Le roi est mort, vive le roi. Dans le cas présent, Elvis n'a jamais eu d'égal depuis sa mort. Contentons-nous de dire alors, Elvis est mort, vive le King.
Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. As I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.